vous tous. Nous voici maintenant rendus à la merveilleuse fête des trompettes. Et chaque année, bien sûr, ça nous rapproche du jour où elle va se réaliser. Et ce jour-là est tout proche devant nous. On le voit par les événements mondiaux qui ne se sont jamais autant conjugués pour aller vers la fin de la société telle que nous la connaissons. Le titre de mon message aujourd'hui, Armageddon et le retour du Christ. De toute évidence, nous vivons dans des temps difficiles, dans des temps tout à fait inhabituels, je dirais anormaux et très insécurisants pour ceux qui ne connaissent pas ce qui vient et qui ne peuvent pas vraiment compter sur Dieu. La situation économique à travers le monde ne cesse de se détériorer et à tout bout de champ, il peut y avoir des éclosions de problèmes majeurs ou des changements considérables qui surviennent. Vous avez les bouleversements climatiques énormes qui se produisent régulièrement. Lorsque vous suivez les bulletins de nouvelles à travers le monde, c'est incroyable à quel point ça se développe, les bouleversements climatiques. C'est annoncé pour l'époque précédant le retour du Christ. En plus de ça, et je ne vous apprends rien si vous suivez le moindrement les bulletins de nouvelles, les guerres et les conflits armés à travers le monde ne cessent d'augmenter et de s'étendre et d'impliquer de plus en plus de nations sur toute la planète. On est rendu là, ce qui n'était pas le cas avant. Et on doit considérer que maintenant, il y a des armes d'une puissance inimaginable qui existe. Elles n'ont pas toutes été rendues publiques, mais elles sont en préparation aussi. Quand on pense que maintenant, vous avez des bombes qui ont besoin d'une bombe à puissance nucléaire pour être déclenchée. Et quand vous savez les dommages qu'on fait à la Deuxième Guerre mondiale, les bombes nucléaires, et qu'on nous montre aujourd'hui que ça prend une de ces bombes-là pour déclencher des bombes encore plus puissantes. Ça vous donne une idée de l'ampleur de ce qui vient. Quand on pense surtout qu'il n'y a aucune arme dans l'histoire de l'humanité qui n'a été utilisée un jour. Et vous savez, là j'ajoute, je pourrais ajouter une série de choses. Vous avez des armes chimiques maintenant, vous avez des armes bactériologiques et ainsi de suite. De plus en plus de gens autour de vous, puis autour de moi, on le voit, s'inquiète pour l'avenir. Et avec raison, parce qu'on vit, comme je disais au début du sermon, dans des temps tout à fait inhabituels, et les gens se demandent ce qui va arriver. Et dans le message aujourd'hui, nous allons voir, et Dieu veut qu'on le sache, qu'il y a des temps de plus en plus difficiles encore qui approchent. Non seulement qui viennent dans un futur lointain, mais qui approchent. Mais en même temps, lorsqu'on connaît le Dieu de la Bible et qu'on veut le servir, en même temps, par la puissance de Dieu, tout ça va déboucher sur un nouveau monde, une nouvelle civilisation. Celle-là sera, comme on en parlait au repas ce midi, enfin heureuse, abondante, prospère, paisible. Et ça ne peut venir que par la puissance de Dieu. Ce n'est pas l'ONU, ce n'est pas aucune des organisations humaines qui peut l'amener. On voit tout ce que ces coquilles vides donnent. On fait réunion sur réunion des grands chefs d'État. Tout ce que ça fait, de façon assurée, c'est coûter de l'argent aux contribuables. Mais d'une fois à l'autre, ce qui est frappant, c'est qu'on fait une résolution. On s'entend pour ne pas décider. Et on s'entend sur la date de la prochaine réunion, l'an prochain, là où on va parler du climat, là où on va parler des situations à régler, et ainsi de suite. Alors, on va voir aujourd'hui qu'est-ce qui s'en vient. Et vous savez comme moi qu'il y a une seule source fiable, certaine, pour connaître l'avenir. Et vous connaissez très bien, la plupart d'entre vous qui lisez la Bible depuis déjà un certain temps, et les nouveaux, vous allez le découvrir, et c'est tellement encourageant. Quand vous regardez dans Ésaïe 46, versets 9 et 10, il est écrit, « Souvenez-vous, c'est Dieu qui parle, de ce qui s'est passé dans les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. » Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Et après, il dit ce que lui, en tant que Dieu Tout-Puissant, est capable de faire et ce qu'il fait. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver dans le futur. Et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. Et on voit dans les textes, par exemple, qu'il a annoncé longtemps d'avance que le Christ viendrait dans la chair humaine, qu'il serait vendu pour 30 deniers, qu'il montrait le petit d'une ânesse pour entrer à Jérusalem, et ainsi de suite. On peut voir toute une série d'annonces que Dieu a faites dans les textes qui se sont par la suite réalisées. Alors, les autres choses que Dieu annonce vont se réaliser. Dieu dit après ça, dans le même passage, je dis, « Mes arrêts subsisteront, j'exécuterai toute ma volonté. » Et la volonté de Dieu, c'est d'accomplir le plan qu'il a établi avec le Christ depuis très longtemps et qui est en train de se réaliser. Aujourd'hui, je vais vous parler davantage dans le message de certains aspects particuliers de ce qui vient. En particulier de ce qu'on appelle la fameuse bataille d'Armageddon, qui sera suivie dans les choses annoncées par Dieu, par le retour du Christ. Et je vais vous parler des événements qui sont reliés à la préparation de cette dernière bataille. Et cette dernière bataille-là, ce sera la dernière bataille de la plus grande guerre mondiale de l'histoire humaine, quand vous regardez ce que les textes disent et ce que nous allons voir tantôt. La Bible parle de cette période qui approche comme étant la grande détresse. Ce n'est pas pour rien. Une détresse, c'est quelque chose d'épouvantable, qui fait peur, c'est une anxiété extrême. Mais ce n'est pas pour que ses enfants soient dans l'anxiété que Dieu nous le révèle. C'est pour qu'on sache qu'il est en charge, qu'il accomplit ce qu'il dit, et les promesses de protection qu'il adresse à ceux qui sont fidèles, il va les réaliser, comme le reste de ses autres promesses. Mais il veut que nous sachions ce qui vient, la grande détresse qui va venir juste avant le retour de Christ. D'ailleurs, on le voit très bien, on l'a vu aussi dans les autres messages qu'on a eus aujourd'hui, dans Matthieu 24, versets 21-22. « Car alors la détresse sera si grande, c'est le Christ qui parle, qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. » Donc, il parle de la plus grande détresse, la période la plus terrible de toute l'histoire de l'humanité. Et ça va être tellement terrible qu'il n'y en a pas eu comme ça dans le passé et qu'il n'y en aura pas dans le futur après. Il dit, il ajoute, c'est le Christ qui parle, « Et si ces jours-là, là, les jours de grande détresse, n'étaient abrégés, c'est-à-dire si Dieu n'y mettait pas fin, et c'est Dieu qui va y mettre fin, personne n'aurait la vie sauve, personne n'en sortirait vivant. » C'est ça que ça veut dire. Il ne parle pas du salut spirituel ici. Il parle de guerre physique et d'une grande détresse physique, et personne ne survivrait physiquement à ça si ces jours-là n'étaient pas arrêtés, mais à cause des élus, ces jours-là seront abrégés. À cause de son petit peuple, de ceux qu'il appelle maintenant, Dieu va mettre un terme à ça. Si vous lisez plus loin maintenant, dans Matthieu 24, de 29 à 35, il est écrit, « Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. » Voilà le retour du Christ. « Toutes les tribus de la terre se lamenteront. » Je comprends, il y aura une détresse telle qu'il n'y en a jamais eu. Alors, toutes les familles de la terre, toutes les tribus vont se lamenter. Et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Parce qu'à ce moment-là, le Christ ne viendra pas comme il est venu la première fois pour donner sa vie, pour payer l'amende de nos fautes. Il va revenir en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs, en tant que Dieu glorieux qui vient établir son gouvernement sur la terre pour mettre fin à toutes les folies humaines qui ont marqué toute l'histoire de l'humanité. Et il dit après ça, « Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents, d'une extrémité des cieux à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. » Et on le sait, hein, quand le printemps commence à apparaître, les feuilles paraissent, les bourgeons éclatent, on dit « Oh, l'été est proche. » Alors, le Christ se sert de cet exemple-là pour dire, quand vous allez voir un certain nombre d'événements, je vais vous en parler tantôt, approcher, vous allez savoir que le retour de Christ est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Et quelles sont ces choses? Si vous regardez juste un peu avant, dans Matthieu 24, verset 3 à 8, Les apôtres ont demandé au Christ à ce moment-là, parce que le Christ leur avait dit avant qu'il allait retourner à son Père et ensuite qu'il allait revenir sur la terre. C'est ce qu'il a promis, c'est ce qu'il va faire. Alors, eux, ils voulaient savoir, comme nous, quand est-ce que ce retour du Christ va se passer sur la terre. Alors, ils lui ont posé la question, quand est-ce que tu vas revenir? Et à quoi est-ce qu'on va reconnaître que ton retour est proche? Et le Christ a donné des indications très précises. Je vous les rappelle, vous les connaissez pour la plupart, mais il faut que ça soit bien imprimé dans notre esprit et qu'on voit les choses se développer devant nous. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Le premier élément qui va jouer, ou le premier signe, ça va être ça, « Car plusieurs viendront sous mon nom en disant, « C'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. » Donc, une augmentation de faux enseignants, de gens qui parlent beaucoup du Christ, mais qui n'enseignent pas la vérité de Dieu, qui amènent les gens dans l'erreur, qui gardent la vérité cachée, captive. Verset 6, « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. C'est ce que nous voyons se développer autour de nous. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. » Et c'est vrai que c'est inconfortable. Lorsqu'on regarde maintenant toutes les guerres de plus en plus intenses et malheureuses, avec tous les drames que ça cause, toutes les misères, tous les malheurs, ça nous prend au cœur et on dit à Dieu de plus en plus fort que ton règne vienne. C'est pour ça qu'on est là pour annoncer son retour et préparer son retour. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Donc, guerre et bruit de guerre. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Et à cause de ces guerres-là, on voit ce que le Christ dit après, il y aura en divers lieux des famines. Parce qu'après la guerre, viennent les famines. En plus des bouleversements climatiques actuellement qui entraînent beaucoup de destruction dans les possibilités de production alimentaire. Mais quand il y a des guerres, les cultivateurs ne travaillent plus et la marchandise a de la difficulté à circuler. Alors le Christ dit, il y aura des famines. Et si vous regardez les mêmes versets dans Luc, vous allez voir qu'il précise, il ajoute des pestes, des épidémies. Parce que ça vient ensemble, ça vient en même temps. Et il commence à avoir certaines épidémies qui paraissent sur la face de la terre maintenant. J'entrerai pas en détail là-dessus parce que ce n'est pas mon propos aujourd'hui. Et il y aura en divers lieux des tremblements de terre. Et le Christ dit, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors donc, quatre signes. D'abord, un grand nombre de faux prophètes. Les églises qui se multiplient. Des gens qui prêchent des choses différentes, mais qui en même temps veulent s'unir pour former l'écuménisme. On met des choses en commun en se disant, on croit à Dieu, mais même si on n'enseigne pas les mêmes choses, on doit croire au même Dieu. C'est ce que l'écuménisme est en train de développer comme esprit dans le monde pour former une grande unité religieuse. Donc, le premier signe que le Christ a donné, les faux prophètes, les faux enseignants qui vont faire beaucoup. Ensuite, l'augmentation des guerres, suivie des famines et ensuite des épidémies. Et là, quand on dit ça aux gens qui nous posent des questions ou qu'on leur explique, les gens disent, oui, mais il y a toujours eu des guerres, il y a toujours eu des famines, il y a toujours eu des enseignements différents qui ont été donnés et ainsi de suite. C'est vrai, c'est absolument vrai. Et le Christ ne nie pas cette réalité-là. Sauf que ce que le Christ est en train de leur dire ici, c'est que ces choses-là, juste avant son retour, vont se passer à un niveau jamais égalé auparavant. À un niveau très élevé. Quand les quatre cavaliers de l'Apocalypse vont se mettre en marche. Ils ne sont pas encore en marche. C'est le début. On est seulement au début. Ils vont se mettre en marche. Et les quatre signes que le Christ a donnés ici, ça correspond justement aux quatre cavaliers ou aux quatre chevaux que l'on voit dans le livre d'Apocalypse. D'ailleurs, l'Apocalypse révèle en détail les événements majeurs qui sont devant nous au temps de la fin et qui vont mener au retour du Christ et à la bataille d'Armageddon que je vais vous décrire tantôt. Voyons ce qui est dit dans le tout début du livre d'Apocalypse. Et ça aussi, c'est encourageant. Vous savez, le livre d'Apocalypse, c'est peut-être le livre le moins lu et surtout le moins bien compris. Les gens disent c'est plein d'imagerie dans ce livre-là qu'on ne comprend pas et tout ça, mais la Bible explique la Bible. Et quand on met ensemble les morceaux du casse-tête ou du puzzle, si vous voulez, ce que le Christ a annoncé, on le voit là. Apocalypse 1. Lisons le verset 1 à 3. C'est l'apôtre Jean qui a écrit le livre d'Apocalypse. Et dans le livre d'Apocalypse, l'apôtre Jean décrit les visions que Dieu lui a données et qu'il a dit à Jean, écris ça dans un livre. Et ça va être pour ceux parvenus au temps de la fin. Regardez bien. Elle montre les événements majeurs qui vont bientôt se passer dans les trois dernières années et demie, juste avant le retour du Christ. Apocalypse 1, versets 1 à 3. Révélation de Jésus-Christ. Donc, c'est le Christ qui révèle quelque chose ici. Révéler, c'est faire connaître. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs. Donc, ceux que Dieu appelle maintenant et qui s'appliquent à vivre selon les lois de Dieu, ce sont les serviteurs de Dieu. Alors, par le livre d'Apocalypse, ces serviteurs-là peuvent comprendre des choses que les autres ne peuvent pas comprendre pour le moment. Dieu n'est pas injuste, il va leur révéler plus tard. Mais ces choses-là qui sont écrites dans le livre d'Apocalypse, c'est un encouragement pour vous et pour moi. Que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et en ce qui nous concerne, c'est bientôt. Au moment où le livre d'Apocalypse a été écrit, ce n'était pas réellement bientôt à l'époque. Mais pour ceux qui lisent à ce moment-ci, c'est bientôt. Et qu'il va faire connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Et dans le livre d'Apocalypse, Jean a eu un certain nombre de visions des choses à venir et Dieu lui a dit, écris ça dans un livre pour que mes serviteurs sachent ce qui s'en vient et qu'ils sachent comment agir. Celui-ci, Jean, a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Soit tout ce qu'il a vu, et moi j'ajoute tout ce qu'il a vu en vision, parce que quand vous lisez tout le livre d'Apocalypse, vous voyez que c'est des visions que l'apôtre Jean a eues. Et regardez qu'est-ce que le Christ dit ensuite. Heureux celui qui lit. Il y a une joie, il y a un bonheur à lire ça et à le comprendre. Il y a un encouragement. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, c'est-à-dire de l'annonce faite longtemps d'avance par le Dieu qui ne ment point et qui fait les choses se réaliser. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. Il faut les garder et il faut observer. S'appliquer à observer les commandements de Dieu. Après, il dit, car le temps est proche. Et pour nous, ce temps-là, il est très, très proche. Alors, je reviens à ça. Les quatre signes donnés par Jésus qu'on a vus tantôt dans Matthieu 24, annonçant l'imminence de son retour, ça correspond, comme on va le voir, aux quatre chevaux ou aux quatre cavaliers du livre d'Apocalypse que l'apôtre Jean a vu en songe et pour lequel il a eu l'ordre de mettre ça par écrit pour nous. Allons voir Apocalypse 5, s'il vous plaît. Apocalypse 5, et je vais vous donner le contexte de ces visions que l'apôtre Jean a eues. Apocalypse, chapitre 5. On va lire le verset 1. « Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de sept sceaux. » Alors, l'apôtre Jean a une vision ici du trône de Dieu au ciel. Le Père a un rouleau dans sa main, un rouleau écrit en dedans et en dehors. Et il y a sept sceaux, comme c'était à l'époque. À l'époque des apôtres, il y avait des écrits qui étaient mis sur des peaux d'animaux qui étaient roulés sur des rouleaux, et on mettait des sceaux à différents tournants de ces rouleaux-là, de sorte qu'il fallait briser les sceaux pour aller voir ce qui était écrit. Alors ici, Jean a vu dans cette vision-là ce que Dieu lui révèle et ce qu'il nous révèle. Il dit, le Père avait un rouleau, il l'a remis, et on va voir tantôt qu'il remet au Christ, et qu'il y a seulement le Christ qui peut ouvrir les sceaux et révéler, faire connaître ce que ces sceaux-là veulent dire. Verset 6. « Et je vis au milieu du trône des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. » Vous savez de qui il s'agit. C'est le Christ qui est mort pour nous, l'agneau immolé, l'agneau de Dieu. Il avait sept cornes et sept yeux qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Regardez verset 9 maintenant, un peu plus loin. Et en parlant des 24 vieillards autour du trône de Dieu à ce moment-là, dans la vision que Jean a eue, et ils, les vieillards, chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre, de prendre le rouleau et d'en ouvrir les sceaux. Seul le Christ peut faire connaître, seul le Christ peut révéler la vérité. » Tu es digne d'en prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, on voit que c'est l'agneau de Dieu, et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et on voit qu'aujourd'hui, Dieu appelle des gens dans toutes les nations sur la face de la terre pour former sa petite équipe en préparation pour le retour du Christ. Et regardez ce qui attend ces gens-là, s'ils sont fidèles, si nous sommes fidèles. Et tu as fait d'eux un royaume, et des sacrificateurs, des enseignants pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Voilà. Alors, voilà ce que Jean a vu dans sa vision. Je reviens à ça maintenant. Donc, le Christ s'est vu donner le rouleau qui révèle les événements juste avant son retour. Et lui seul pouvait ouvrir les sceaux. Maintenant, nous allons voir ici les quatre premiers sceaux et nous allons voir qu'ils correspondent aux quatre signes que le Christ a donné dans Matthieu 24 comme annonçant son retour comme étant imminent. Apocalypse 6, on va lire le verset 1 à 8. Après, je vais expliquer davantage. « Je regardai quand l'agneau ouvrit un des sceaux, et j'entendis l'un des quatre êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, « Viens, je regardai, et voici, parut un cheval blanc. » Ça commence ainsi. Le premier sceau est ouvert, et là, il y a un cheval blanc qui apparaît dans la vision. « Celui qui le montait avait un arc, et une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. » Un cheval blanc monté par quelqu'un qui a un arc, ce n'est pas le Christ. Parce qu'on voit qu'au retour du Christ, ailleurs dans l'Apocalypse, que quand le Christ revient, il y a une épée à deux tranchants. Ce n'est pas un arc. L'arc est un instrument des païens. Et ici, ça décrit un faux prophète. On parlait des fausses religions, qui est le premier élément à surveiller. Et au temps de la fin, il y aura une grande religion antichrétienne, mais qui portera le nom de chrétien, qui va faire beaucoup de dommages sur la face de la terre. Et que le chef de cette religion-là sera associé à l'Empire romain ressuscité et à son dictateur, comme ça a été le cas dans l'histoire passée de l'Europe et de l'humanité. Alors, le premier signe, donc, les faux prophètes, c'est ça ici, c'est ce que le Christ avait dit. « Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait « Viens », et il sortit un autre cheval, roux celui-là, un cheval d'une autre couleur. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. » Qu'est-ce que le Christ a donné comme deuxième signe dans Matthieu 24? Les guerres. Alors, le deuxième cheval, c'est justement ce qui enlève la paix de la terre. Ce sera des guerres à une proportion jamais vue dans l'histoire humaine. Et ça est en train de se développer actuellement. Maintenant, continuons au verset 5. « Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, « Viens, je regardai, et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait, « Une mesure de blé pour un denier, et trois mesures d'orge pour un denier. Mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. » Ça, c'est famine. Parce qu'un denier, c'est le salaire d'une journée pour un morceau de pain à ce moment-là, pour un peu de quelque chose à manger, pour ceux qui travaillent. OK? Donc, ça, on voit que c'est une période de famine. Le troisième signe que le Christ avait donné. Allons maintenant au quatrième sceau, qui correspond au quatrième signe que le Christ avait donné. « Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait, « Viens, je regardai, voici, parut un cheval d'une couleur verdâtre. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. » Alors, ici, vous avez les pestes, les famines, les épidémies et les pandémies qui s'en suivent. Vous avez le quatrième signe que le Christ avait donné. Et là, après, il fait un résumé de ça. Il dit, qu'est-ce qui arrive à la terre lorsque ces quatre cavaliers sont lâchés? Ils ne sont pas encore lâchés. Mais quand ils seront mis en action, tout ça va se réaliser rapidement sur la face de la terre. Et regardez ce qui se passe, la conclusion ou le résultat du travail de ces quatre chevaux, de ces quatre cavaliers. Le pouvoir leur fut donné. À qui leur? À ces quatre chevaux. Ou à ces quatre cavaliers. Le pouvoir leur fut donné sur le corps de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Alors, voyez-vous, je vous ai donné ça pour que vous voyez que les quatre signes que le Christ avait donnés dans Matthieu 24, vous les retrouvez ici dans les quatre premiers sceaux qui sont révélés dans une vision à l'apôtre Jean. Après ça, on arrive au cinquième sceau, versets 9 à 11, vous pourrez le lire vous-même. Là, c'est la persécution des vrais chrétiens, une persécution à grande échelle. Après ça, il ouvre le sixième sceau du rouleau, là, dans la vision de Jean. Et là, ce sont les signes célestes. Il va apparaître dans le ciel des signes jamais vus auparavant, des choses traumatisantes, majeures. Ça, vous pourrez lire ça dans versets 12 à 17. Mais je pense qu'on va lire 15 à 17 pour que vous voyez un peu. Versets 15 à 17 de Apocalypse 6. Comment les gens vont réagir après tous ces dommages qui auront été créés sur la terre et quand les signes célestes, qui sont une manifestation directe de Dieu, parce qu'à ce moment-là, Dieu va commencer à se manifester directement dans les événements sur la terre. Et regardez comment les gens vont réagir. Ils auront une peur extrême à partir du verset 15. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et tous les hommes libres se cachèrent dans les cavernes. Ils avaient peur. Ils auront peur. Et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. » Parce que c'est à ce moment-là que va commencer la colère de l'agneau, tout de suite après. « Car le grand jour de sa colère est venu, qui peut subsister? » Et là, on arrive au jour de la colère de Dieu, où Dieu va intervenir de façon magistrale dans l'histoire humaine. Là, on aura 2 ans et demi de passé dans la grande détresse, lorsque ça se produit. Les signes célestes, ça va durer très peu longtemps, là. C'est à la fin des 2 ans et demi, ça, que les signes célestes paraissent dans le ciel et que les gens sont terrifiés, comme on vient de voir ici. Là, on arrive au 7e sceau, le dernier sceau que le Christ ouvre dans le rouleau qu'il avait dans la vision de l'apôtre Jean. Et ce 7e sceau-là comprend 7 trompettes. Aujourd'hui, on célèbre la fête des trompettes. C'est directement en lien avec ce qui va venir. Et ces 7 trompettes-là, c'est le temps de la colère de Dieu ou de la colère de l'agneau. Et ça, ça va durer 1 année. C'est la dernière année avant le retour du Christ. La grande détresse va durer 3 ans et demi. 2 ans et demi au début, c'est la colère de Satan. Et la dernière année, c'est la colère de l'agneau maintenant qui se manifeste pour préparer son retour et montrer aux êtres humains qu'il est l'autorité suprême, que son Père est le gouverneur de l'univers et ce qui a été annoncé longtemps d'avance est en train de se réaliser. Alors, on va voir les 7 trompettes, mais je veux les voir d'une façon différente qu'on les voit d'habitude. Je vais simplement vous les décrire rapidement, juste pour que nous ayons une perspective de ce que c'est. Alors, c'est la dernière année avant le retour du Christ. C'est ce qu'on appelle le jour du Seigneur. La première trompette, qu'est-ce qui se produit à ce moment-là? Il y a un ange qui sonne de cette trompette-là, et là, Dieu intervient. Et il y a 1/3 des forêts et des prairies qui sont brûlées. 1/3 des forêts et des prairies de toute la terre. Là, on parle de choses majeures. Ça, c'est après qu'il y aura eu 1/3 de l'humanité qui aura été détruite, comme on a vu tantôt, là, à partir des 4 premiers chevaux. Donc, il reste moins de monde sur la terre. Mais là, il y a 1/3 des forêts et des prairies qui sont brûlées à la première trompette. À la 2e trompette, il y a 1/3 de la mer qui est changée en sang. Il y a 1/3 des navires à ce moment-là qui sont détruits, des navires qui sont sur l'eau de la mer à ce moment-là. Vous pourrez voir ça dans les versets bibliques qui suivent. Quand la 3e trompette sonne, il y a 1/3 des rivières qui est contaminée. Alors, voyez-vous qu'il reste c'est de plus en plus difficile et il reste de moins en moins de marge pour les êtres humains de vivre. Ils ont encore la chance de se repentir et de se tourner vers Dieu pour lui demander son aide, mais ils ne le feront pas. Dieu l'annonce d'avance. Maintenant, la 4e trompette sonne et là, il y a 1/3 du soleil et de la lune qui vont être obscurcis. J'imagine que ça va être lugubre, terrifiant de voir ça. Le soleil ne donnera plus sa lumière comme il la donne maintenant. Et la lune, pareil, ce sera sombre. Ce sera sombre comme l'histoire humaine, si vous voulez. Après ça, la 5e trompette sonne. Et là, il y aura 5 mois d'intense action militaire par la bête, par l'Europe unie. 5 mois d'intense action militaire. Il y a des morts, là. Il y a des famines qui s'en suivent encore. Donc, ça continue d'accabler l'humanité. Après ça, la 6e trompette sonne. Et là, il y a une armée de l'Orient qui se met en marche, qui s'active. Ça, c'est la Russie, la Chine, les pays de cette grande région-là qui va s'activer. Et il y a, à cause de leur action militaire, vous allez voir dans les textes, il y a 1/3 de l'humanité restante qui va mourir sous le travail de cette armée orientale qui se crée à ce moment-là. Et après ça, 7e trompette, là, vous avez la proclamation du royaume de Dieu qui va être établi sur la terre et le second avènement du Christ. Et à la 7e trompette, on arrive à d'autres événements qui, eux autres, vont se passer d'une façon très rapide, qu'on appelle les 7 fléaux. À la 7e trompette, on annonce l'entrée en fonction du Christ, on annonce son royaume prochain, Et là, il y a 7 fléaux qui s'en suivent, mais ça ne dure pas longtemps. Parce que si ça durait longtemps, il n'y aurait plus personne qui serait en vie. Et c'est pour ça que le Christ va mettre un terme à ça, parce qu'il n'y aurait plus d'âmes qui vivent sur la face de la terre. Là, il y a les 7 fléaux qui vont durer quelques jours. Et parmi ces fléaux-là, un des derniers sera la grande bataille finale qu'on appelle la bataille d'Armageddon, dont je vais vous donner plus de détails tantôt. Et c'est à la toute fin qu'auront lieu les événements reliés à cette bataille d'Armageddon. Pour votre précision, Armageddon, c'est le nom d'un lieu qui est situé à peu près 90 kilomètres au nord de Jérusalem. C'est Ar-Megiddo. Ça veut dire colline ou montagne de Megiddo. Armageddon. Et la bataille finale de la Troisième Guerre mondiale n'aura pas lieu là. C'est important qu'on le sache aussi. Dieu veut qu'on apprenne ces choses-là, qu'on les sache d'avance. Il révèle à ses serviteurs les choses qui viennent. La bataille finale n'aura pas lieu là. On l'appelle bataille d'Armageddon, comme dans un langage courant, mais en réalité, ce n'est pas exact de dire ça. C'est le rassemblement qui aura lieu à Armageddon, et ensuite, les armées vont se déplacer pour s'affronter un peu plus loin. Je vais vous le montrer par la Bible. Donc, la bataille finale de la Troisième Guerre mondiale n'aura pas lieu à Armageddon. Mais c'est là que se rassembleront les deux plus grandes et les deux plus puissantes armées de l'histoire. Premièrement, l'armée de l'Empire romain ressuscitée, la bête, avec le dictateur qui va diriger. Vous pourrez aller voir dans Apocalypse 13, versets 1 à 5. « Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses 10 cornes, 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. » Ils adorèrent la bête. Les gens de l'humanité vont admirer cette grande puissance européenne qui n'aura rien de comparable à ce moment-là, qui va être extrêmement puissante. Ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle avec l'armée qu'elle a? » Elle aura englobé les armées de tous les pays auxquels elle se sera associée, ou je devrais dire plutôt les pays qui se seront associés à elle, parce qu'on voit par la Bible que les nations vont leur donner leur autorité. Les 10 nations ou groupes de nations en Europe vont leur donner à la bête et à son empire leur autorité et leur possibilité de combattre. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant combien de temps? 42 mois. 3 ans et demi. 42 mois. La grande détresse. 3 ans et demi. Et je pense que ça vaut la peine. On est dans Apocalypse. Allez voir Apocalypse 11 et le verset 3, juste un peu plus loin. À ce moment-là, durant la période de la grande détresse, l'Église ne pourra plus elle-même annoncer l'Évangile. Ce sera terminé. Ce sera la famine de la parole, pour ainsi dire, comme on voit dans les textes. Mais Dieu va pourvoir avec 2 de ses témoins qui seront à Jérusalem et qui vont annoncer au monde entier la raison de ce qui se passe et ce qui s'en vient par la suite. Et regardez ici, Apocalypse 11 et le verset 3. « Je donnerai à mes 2 témoins, c'est Dieu qui parle, le pouvoir de prophétiser revêtu de sac pendant 1260 jours. » Donc, pendant 3 ans et demi, exactement, ce qui correspond à ce que nous venons de voir. Maintenant, je vais aller, vous pouvez garder votre place ici parce qu'on va revenir, mais je vais vous montrer dans Daniel 12. Daniel 12, il y a quelque chose qui correspond à ça et qui nous montre comment Dieu nous révèle en détail ce qu'il va faire, même dans la durée des temps de ce qui s'en vient. Daniel 12, verset 1. « En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. » Est-ce que ça vous dit quelque chose? C'est ce que le Christ a dit dans Matthieu 24. Ça correspond exactement à ça. Une époque de détresse sans pareil, comme il n'y en a jamais eu et comme il n'y en aura jamais plus après. Maintenant, regardons comment ça va durer de temps. Regardez le verset 7 du même chapitre. « Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps. » Une année, 2 années et la moitié d'une année. Ça fait combien? Ça fait 3 ans et demi. Exactement le temps de la grande détresse. Et il dit, « Et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. » Et vous avez une époque où Satan va se tourner contre ceux qui n'auront pas été fidèles suffisamment, contre l'Église de Laodicée, contre ceux qui gardent les commandements de Dieu mais qui ne sont pas là de tout cœur. Et Satan va les attaquer, va les détruire, va les persécuter comme jamais auparavant. La vraie Église de Dieu, elle, aura été emmenée en lieu de sécurité pendant ce temps-là. OK? L'Église sera nourrie au désert pendant un temps, des temps, la moitié d'un temps, 3 ans et demi. OK? Alors, ceux qui restent derrière, c'est ceux qui ne sont pas suffisamment zélés, suffisamment tournés vers Dieu pour changer les choses qu'ils ont à changer avec l'aide de Dieu et pour accomplir son œuvre. Alors donc, je reviens à ça, c'est que la bataille finale de la Troisième Guerre mondiale n'aura pas lieu à Armageddon, mais dans un territoire proche. Il y aura deux armées qui vont s'affronter. L'armée de la bête, comme j'ai mentionné, l'armée de l'Europe unie, et une armée considérable venue de l'Orient, Russie, Chine et les autres pays asiatiques, les grands pays de la région. Et vous savez une chose? On nous dit que, on va le voir tantôt, que cette armée-là comprendra 200 millions de soldats. Vous avez bien compris? 200 millions de soldats. Pour vous montrer que ça peut être possible, à l'heure où je vous parle, la Chine a déjà sous les drapeaux 100 millions d'hommes. Ça vous donne une idée? Et ça continue d'augmenter. Alors, mettez à ça les autres grands pays asiatiques de la région, plus la Russie, vous allez avoir facilement votre chiffre de 200 millions. Ce qui n'aurait pas été possible il y a un certain nombre d'années. Mais on est avancé, on est rendu au temps de la fin. C'est pour ça que le Christ a dit « le temps est proche ». Quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Christ est proche, à la porte. Apocalypse 9, versets 15 à 21. Et les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuent le tiers des hommes. Le nombre des cavaliers était de 2 myriades de myriades, c'est-à-dire 200 millions d'hommes. J'en entendis le nombre. Et ainsi, dans la vision, je vis les chevaux et ceux qui les montaient, ayant des cuirasses de couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Là, on parle de l'armement moderne que Jean a décrit avec les mots qu'il avait. Il a vu les visions, il a décrit avec ce qu'il connaissait. La tête des chevaux était comme des têtes de lion et de leur bouche sortait du feu. Quand vous regardez les armes, quand vous regardez comment ça s'est utilisé pour cracher le feu, pour ainsi dire, de la fumée et du soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre qui sortait de leur bouche. Car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Les autres hommes ne furent pas tués par ces fléaux, mais ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. Ce que je vous disais tantôt. Malgré tout ça, l'ensemble des êtres humains ne se repentiront pas de leurs œuvres. Ils ne cessèrent pas d'adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs enchantements, ni de leurs débauches, ni de leurs vols. Et on voit nos sociétés multiplier les vols, les débauches, le mensonge, la corruption, la violence, tout ce que vous voulez. Et ils ne s'en repentiront pas, ils sont rendus trop loin. Et c'est pour ça que Dieu doit frapper aussi fort, pour que lorsqu'il va les ramener à la vie plus tard, ils auront compris la leçon. C'est pour ça que Dieu fait ça, c'est pas parce qu'il les déteste, c'est parce qu'il les aime. Comme un père qui doit corriger un enfant pour l'aider, pas pour lui faire du mal. Il y aura des dommages terribles infligés par ce bloc de pays de l'Orient. Notez que l'Empire romain et ses armées, la bête, se sera alors déjà rendu maître du Moyen-Orient, de tout le Moyen-Orient, y compris de Jérusalem, et des nations arabes. Vous connaissez la prophétie à ce sujet-là dans Daniel 11, versets 40 à 43, quand il est dit au verset 40, « Au temps de la fin, le roi du Médie, c'est-à-dire le monde islamique qui va s'unir, le monde musulman qui va s'unir pour attaquer la bête, l'armée européenne, a attaqué l'Europe, et le roi du Septentrion, qui est l'Europe unie, fondra sur lui comme une tempête avec des chars et des cavaliers et avec de nombreux navires, et il s'avancera dans les terres, se répandra comme un torrent et débordera. Il entrera dans le plus beau des pays. » Quel est le plus beau des pays pour Dieu? C'est Israël. Où est sa capitale? Où est-ce que le Christ va revenir? Jérusalem. Il dit, il va entrer dans le plus beau des pays et plusieurs succomberont, mais Édom et Moab et les principaux enfants d'Amon seront délivrés de sa main. Et c'est pour ça qu'il n'est pas impossible que ce soit sur ces territoires-là que Dieu ait choisi. Il va nous le montrer en temps et lieu, d'amener l'Église fidèle, celle qui sera protégée au lieu de sécurité, parce que Édom et Moab seront protégés de ça. On voit ça ici. seront délivrés de sa main. Il étendra sa main sur divers pays, et le pays d'Égypte n'échappera point. Il se rendra maître des trésors d'or et d'argent et de toutes les choses précieuses de l'Égypte. Les Libyens et les Éthiopiens seront à sa suite. Alors, vous avez ici cette grande armée de l'Europe unie qui sera très forte, qui aura d'autres pays de d'autres continents qui vont être avec elle à ce moment-là et qui va étendre sa puissance. Mais quand il va voir l'armée de l'Orient se mettre en marche, il va réagir. La bête avec son armée ne restera pas tranquille. Ils vont réagir violemment pour affronter les armées du bloc de pays orientaux se préparant à descendre vers la région de Jérusalem. Alors, eux autres sont déjà en région de Jérusalem, ils occupent d'autres territoires, et quand ils voient les armées du Nord commencer à se mettre en marche et à détruire comme ils détruisent, la bête se prépare pour l'affronter. Quelle est la réaction de la bête à ce moment-là face aux pays orientaux qui ont commencé à bouger? Daniel 11, versets 44-45. Des nouvelles de l'Orient et du septentrion, du Nord-Est, viendront l'effrayer, et il partira avec une grande fureur pour détruire et exterminer des multitudes. La bête n'entend pas rire, comme Hitler n'entendait pas rire non plus. Mais ce sera un niveau encore plus gros, plus élevé, plus grand. Parce que le Christ a dit que la détresse sera plus grande que tout ce qu'il n'y a jamais eu. Donc, la Deuxième Guerre mondiale sera, pour ainsi dire, chose pâle à côté de ce qui va se passer à ce moment-là. On ne peut pas imaginer à quel point ces choses-là vont être effroyables, avec une grande fureur pour détruire et exterminer des multitudes. La Bible montre comment les armées de l'Orient seront amenées à descendre vers Armageddon. Parce qu'il faut qu'elles descendent, les armées, vers Armageddon pour affronter les armées de la bête qui sont déjà là. Comment ça va se passer? Qu'est-ce qui va les amener à descendre vers le lieu de rassemblement? Apocalypse 16, versets 12 à 16. Apocalypse 16, versets 12 à 16. Le sixième ange versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit pour préparer la voie aux rois qui viennent de l'Orient. Il va se passer un phénomène extraordinaire, majeur. Dieu est capable de séparer les eaux de la mer Rouge pour faire passer son peuple. Il est capable de faire tarir les eaux d'un fleuve pour que les armées puissent passer facilement, pour préparer la voie aux rois qui viennent de l'Orient. Verset 13. « Je vis sortir de la gueule du dragon, de Satan, de la gueule de la bête et de la gueule du faux prophète, trois esprits impurs, semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de la terre. Pourquoi? Afin de les rassembler. » Dans quel but? Pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Alors, Dieu va permettre à des êtres spirituels méchants d'influencer ces chefs-là pour qu'ils amènent leur armée là où ils doivent aller, pour que les choses annoncées se réalisent. Et ça, c'est en vue du grand jour du Dieu Tout-Puissant. C'est pas pour le dimanche. C'est le jour du Seigneur. Nulle part dans la Bible, vous allez trouver que le jour du Seigneur, c'est le dimanche. Le jour du Seigneur, c'est une année de représailles de Dieu. C'est la colère de l'agneau. Le sabbat n'a jamais été changé. Le jour de Dieu a toujours resté le sabbat, et ce sera la même chose dans le monde à venir. Alors, oui, parce que si vous regardez le jour du Seigneur, c'est une année de la colère de Dieu. C'est la colère de l'agneau, comme on voit dans Apocalypse 6, versets 15 à 17. Vous pourrez aller voir Apocalypse 6, versets 15 à 17. Vous pourrez aller voir deux versets pour prouvez ça encore. Ésaïe 34, verset 8. Qu'est-ce que Dieu dit là? Ésaïe 34, verset 8, il dit, « C'est un jour de vengeance, une année de vengeance pour l'Éternel, une année de représailles pour la cause de Sion. » Alors, ce jour-là, le jour du Seigneur, il dit bien là, c'est une année de représailles de l'Éternel. Vous irez voir dans Ésaïe 63, verset 4, qui va confirmer ça aussi, où Dieu dit, « Voici un jour de vengeance était dans mon cœur. » C'est quoi ce jour de vengeance-là? Il dit après, « Et l'année de mes rachetés est venue. » L'année de mes rachetés est venue. La dernière année des trois années et demie de la grande détresse. Alors, je continue. Je reprends le verset 14 d'Apocalypse 16. Les esprits de démons qui vont amener les grandes armées à se rassembler pour le jour du combat du Dieu Tout-Puissant. Verset 15, « Voici, je viens comme un voleur. » Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements. Nous, on doit veiller. Veiller sur ce qui se passe, mais veiller sur nous-mêmes pour nous purifier, pour avoir des vêtements de fin lin, comme l'épouse doit avoir, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Et regardez verset 16. Je reviens à ça, ce qui est important. ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Alors, on voit que sous l'influence des démons, les armées vont se rassembler à la colline de Megiddo, ou à Armageddon, si vous voulez. Ils vont juste se rassembler là. Ils ne se battront pas là. Vous irez voir dans Joël, chapitre 3, verset 2. Qu'est-ce que Dieu dit? « Je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat, qui n'est pas tellement loin de là. » Et « vallée de Josaphat », ça veut dire « jugement de l'Éternel ». Et c'est là que l'Éternel va rentrer en jugement avec eux. « Là, je rentrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple, d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays, qu'elles ont partagé. » À ce moment-là, nos nations israélites modernes seront en captivité un peu partout à travers le monde. C'est ça que Dieu mentionne en même temps ici. Mais il dit, je vais rentrer en jugement contre ces gens-là à ce moment-là. Vous pourrez aller voir l'Apocalypse 19. Apocalypse 19. Nous allons lire à partir du verset 11. Apocalypse 19, verset 11. « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. » Ce n'est pas le même cheval blanc que tantôt, vous allez voir. « Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. » Qui est fidèle et véritable? C'est le Christ. Alors le Christ sera sur un cheval blanc lorsqu'il reviendra. « Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Il revient dans la gloire. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. C'est le roi des rois. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était vêtu d'un vêtement teint de sang. » Pourquoi? Parce qu'il a versé son sang pour vous et pour moi, pour racheter les êtres humains. Son nom est la parole de Dieu. C'est le Christ. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Ce n'est pas un arc. Voici le Christ, une épée aiguë, l'épée de la parole. Et il l'épètera avec une verge de fer. Il foulera la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, « Roi des rois, Seigneur des seigneurs ». Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient au milieu du ciel, « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, des chefs militaires, des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres, esclaves, petits et grands. » Verset 19, « Et je vis la bête, les rois de la terre et leurs armées, rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. » Là, on voit ici l'affrontement final. Après que les armées se sont rassemblées à Armageddon et descendent dans la vallée de Josaphat, là, ils vont devoir affronter le Tout-Puissant lui-même. Et la bête fut prise. Le dictateur, le nouvel Hitler qui sera en charge de l'Europe unie, qui va faire autant de dommages. Et la bête fut prise. Et avec elle, le faux prophète, qui a prétendu être chrétien et parler au nom de Dieu, s'appelant même le Père Saint, alors qu'il y a seulement un Saint-Père qui est dans le ciel. Le faux prophète qui avait fait devant lui des prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Voilà ce qui se passe après le rassemblement d'Armageddon, après que les armées, à partir de là, se rendent dans la vallée de Josaphat pour subir le jugement annoncé par Dieu. Et ce qui se passe là, c'est exactement ce que vous voyez écrit dans Zacharie 14, ce qui avait déjà été annoncé longtemps d'avance encore. Zacharie 14, versets 1 à 4. « Voici, le jour de l'Éternel arrive. » Et on a vu tantôt que ce jour-là, ce n'est pas une journée, c'est une année. « Voici, le jour de l'Éternel arrive. » Et à la fin de cette année-là, là, il y a la grande guerre où le Christ intervient de façon incroyable. « Voici, le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai, verset 2. » Regardez bien, on vient de le voir d'ailleurs dans d'autres versets. Dieu dit, « Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. » Ils seront descendus vers Jérusalem. « La ville sera prise, les maisons seront pillées, les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité. » Quelle est la moitié qui ira en captivité? La moitié juive, et non pas la moitié arabe. OK? Mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. Il fallait que ça soit annoncé longtemps d'avance pour savoir que la ville de Jérusalem, au temps de la fin, comme c'est le cas actuellement, elle est divisée en deux, entre un pays israélite et un pays non israélite entre les Arabes et les Juifs, c'était écrit longtemps d'avance. Et ça ne s'est pas réalisé tout de suite. Il y a eu des centaines d'années où les Juifs n'étaient pas là. Ça ne fait pas longtemps qu'ils sont revenus. La prophétie s'accomplit. Mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel, verset 3, paraîtra. Et il combattra ces nations qui se sont assemblées avec leurs armées comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. Verset 9. L'Éternel sera roi de toute la terre. Ce sera lui qui sera en charge de l'humanité à ce moment-là. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel. Il n'y aura pas d'autres dieux. Il n'y aura pas de faux dieux. Il n'y aura pas de gens qui vont enseigner des faussetés. Le vrai Dieu sera là lui-même, avec son équipe. Et nous voulons être là. C'est pour ça que nous nous préparons pour aider l'humanité, pour guérir l'humanité, pour leur enseigner la splendeur de la vérité de Dieu. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel et son nom sera le seul nom. Jérusalem sera en sécurité. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, ce qui n'a à peu près jamais dans l'histoire été le cas, sinon de très brèves périodes, entre autres sous Salomon à une certaine époque. Zacharie 8, verset 3. Regardez comment c'est encourageant. Zacharie 8, verset 3. « Ainsi parle l'Éternel. » Ça, c'est annoncé longtemps d'avance et ça va se réaliser bientôt. « Je retourne à Sion. » Hein, le Christ avait dit « Je m'en vais au ciel vers le trône de mon Père et je reviendrai. » Et là où je suis, il était sur la terre à ce moment-là, « Là où je suis, vous y serez avec moi, vous, mes serviteurs, qui allez être fidèles. « Je retourne à Sion et je veux habiter où? » Au milieu de Jérusalem. Mais oui, parce que Jérusalem va devenir à ce moment-là la capitale de la terre. C'est fantastique. Au milieu de Jérusalem, Jérusalem sera appelée ville fidèle et la montagne de l'Éternel des armées, montagne sainte. Le terme montagne dans la Bible, ça veut dire un gouvernement. Écoutez, vous qui m'entendez, vous qui cherchez dans la Bible à comprendre le plan de Dieu, si vous essayez de mettre en pratique en suppliant Dieu de vous aider, de mettre en pratique ses voies, ses lois, d'observer son saint sabbat et ses sabbats annuels, les fêtes, et de vivre selon la voie que le Christ nous a montrée, vous réalisez qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Parce que ce que je vous explique aujourd'hui, qui est en rapport exactement avec la fête des trompettes que nous vivons, pour l'ensemble de l'humanité, c'est un mystère. Les gens ne peuvent pas comprendre et on ne peut pas les blâmer de ne pas comprendre. Leur temps n'est pas venu. Leur temps va venir, par contre. Vous pourrez aller voir dans Matthieu 13, versets 10 et 11. C'est le passage où les disciples disent au Christ, Matthieu 13, versets 10 et 11, les disciples disent au Christ, ben, « Pourquoi tu parles aux gens en parabole puis en image? Ils ont de la misère à comprendre. » Le Christ leur dit pourquoi il leur parlait en image. Et là, si vous êtes comme moi, si vous avez grandi dans la religion catholique ou peut-être dans une religion protestante qui enseignait les mêmes choses, on nous disait quand on posait cette question-là, pourquoi est-ce que le Christ parlait en parabole, on nous disait, bien, c'est pour mieux se faire comprendre des gens. Il donne des images pour que les gens comprennent. Mauvaise réponse. Quand vous regardez ce que le Christ dit, c'est exactement le contraire. Quand vous lisez dans Matthieu 13, versets 10 à 11, le Christ dit à ses disciples, « Il vous a été donné à vous autres de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné encore les autres autour. » Voyez-vous? C'est fantastique ce que Dieu nous donne lorsqu'on veut faire sa volonté et qu'on marche dans ses voies. On comprend ce qui s'en vient. On comprend ce qu'on a à faire. Et il nous promet toute l'aide nécessaire dont nous avons besoin pour arriver au but. Et le but, c'est l'établissement d'un gouvernement sur la terre dirigé par le Christ qui va enfin amener la justice et de la paix. Il faut que la justice vienne avant. Les gens cherchent la paix dans le monde, mais ils ne cherchent pas la justice. Et la paix ne peut pas venir dans le monde s'il n'y a pas d'abord la justice. C'est pour ça que le Christ est présenté d'abord comme un roi de justice. Quand la justice va être établie, la paix va être établie sur la terre aussi. Il est roi de justice et il est roi de paix. Et ça nous a été donné de connaître ces choses-là et même de pouvoir y participer. Écoutez, réétudiez les brochures qu'on a à ce sujet-là dans l'Église. Ça vaut vraiment la peine. Reprenez ces brochures-là, comme par exemple le magistral plan de Dieu par ses fêtes. Ça va vous révéler des choses ou ça va vous rappeler ou vous donner d'approfondir des choses très importantes. Et il y a une autre brochure aussi, le mystère révélé de l'Apocalypse. Vous allez voir en détail ce qu'a vu l'apôtre Jean et tout ce que ça veut dire exactement. Et ça va vous apporter une nourriture tellement encourageante. Et vous voyez à ce moment-là le plan de Dieu. Ce n'est pas pour rien qu'on a vu tantôt. Rappelez-vous, Apocalypse 1, verset 3, le Christ a dit « Heureux celui qui lit, heureux ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et pour les lire, pour les entendre, il faut aller les voir, il faut aller les voir dans la Bible, et ces outils-là que je vous suggère vont vous aider dans ce sens-là. Heureux ceux qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » Et pour nous, le temps, il est très proche. Quelqu'un mentionnait tantôt, on en a parlé sur l'heure du repas, mais on en a parlé dans les messages aussi, le temps se fait court, et on dirait qu'on le sent aussi. Il y a tellement de choses qui vont vite qu'il faut vraiment se discipliner pour ne pas se laisser digérer par tout ce qui peut nous attirer à côté ou nous déranger ou diluer nos efforts pour maintenir nos priorités. Il faut vraiment choisir et demander l'aide de Dieu et garder nos priorités en règle. Dieu en premier, prier chaque jour en commençant nos journées, faire une étude de la Bible chaque jour au moment qui nous convient dans la journée, jeûner régulièrement, s'en remettre à Dieu pour toutes les décisions qu'on a à prendre. Voyez-vous, marcher avec Dieu. Ça, c'est la préparation qu'on a à faire. Et quand tout ça sera déclenché, on aura la force nécessaire de passer à travers ces événements-là qui viennent. On aura besoin à ce moment-là d'être déjà en possession de la force de Dieu, d'être proche de Dieu quand ces choses-là vont arriver. En ces temps difficiles, et les temps plus difficiles qui approchent encore, nous pouvons avoir confiance et nous pouvons garder confiance et même avoir la paix d'esprit. La paix d'esprit, on en a parlé au dîner aussi. Et ça ne peut venir que de Dieu, la vraie paix d'esprit. La paix d'esprit qui surpasse toute compréhension humaine, comme la Bible mentionne. Elle ne peut venir que de Dieu si on a à cœur de lui obéir. Même si on n'est pas parfait, mais si on est en train de lui obéir, qu'on demande pardon de nos fautes, qu'on lui demande de nous aider, il va nous répondre, parce que Dieu est fidèle. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. C'est ce que Dieu nous dit. Et Dieu ne ment pas. Et en terminant, je vous donne simplement deux petits versets dans le psaume 33. Ils sont tellement un encouragement. Si nous nous tournons honnêtement vers Dieu pour faire sa volonté avec son aide, il va nous donner la force d'aller au bout. Et entre-temps, il va nous réconforter de toutes sortes de façons. Vous allez de plus en plus voir sa main intervenir dans vos journées. Si vous êtes proche de lui, si vous marchez avec lui, si vous lui parlez au cours de la journée pour lui demander son inspiration, son aide, quoi décider, comment décider, qui aller consulter pour avoir les bonnes informations avant de prendre des décisions majeures et ainsi de suite. Il va être avec vous. Il va vous réconforter. Qu'est-ce qui est écrit en passant dans Matthieu 6, verset 33? C'est un classique. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste vous sera donné par surcroît. Chaque jour suffit sa peine. Ne vous inquiétez pas du lendemain, dans 6 mois ou dans 1 an. Aujourd'hui, avec Dieu, on s'élève la fête. On est reconnaissant envers lui. Et demain, ce sera une autre journée. On la met dans ses mains. On la vit proche de lui. Et si je m'occupe de mes responsabilités, Dieu va s'occuper de moi. Il va s'occuper de vous jusqu'au bout. Il va voir à vous amener au bon endroit. Et regardez psaume 33, versets 18 et 19, et je termine là-dessus. C'est tellement encourageant. Voici l'œil de l'Éternel. Et l'Éternel, on sait que c'est le Tout-Puissant. C'est le gouverneur de l'univers. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. Craigner l'Éternel, c'est apprendre à l'aimer en mettant en pratique ses lois, ses voies, tout simplement. C'est de l'admirer, de le révérer, de dire « tes lois sont bonnes ». Je ne suis pas capable de les observer parfaitement, mais aide-moi, je veux y arriver, je me mets en marche, je continue. C'est ça. Il dit « l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté ». Et moi, pour un, et pour plusieurs d'entre vous, vous pourrez me dire la même chose, c'est que lorsqu'on espère dans la bonté de Dieu, il répond. Lorsqu'on espère dans une bonne attitude en voulant changer pour faire sa volonté. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. Pourquoi? Regardez, verset 19. « Afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. » Il y a des promesses extraordinaires dans les grands bouleversements qui s'en viennent, des promesses qui s'adressent à chacun et chacune des enfants de Dieu.